One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéenne.
Marc-Antoine Mathieu.
Cédric Villani.
Et tous les deux, vous êtes, comme on l'a dit, de Modiano, des détectives métaphysiques.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
La culture, ça sert aussi à se regarder dans le miroir. Nous le savons depuis quelques heures, Leïla Slimani est la 10e femme à recevoir le prix Goncourt. Elle succède donc entre autres à Elsa Triolet, Simone de Beauvoir, Edmond Charleroux, Marguerite Duras et Lydie Salver. 10 femmes prix Goncourt en un siècle et 13 ans, 10 sur 113. Voilà le ratio femmes-hommes plus que léger. Mais si on suit la démarche de Slimani, on devrait ne peut-être même pas le souligner. Dans son premier roman, Le Jardin de l'Ogre, comme cette chanson douce qui vient d'être goncourisée, les héroïnes féminines y sont traitées comme les personnages masculins les plus sombres de la littérature, à égalité de défauts, d'horreurs et d'humanité. Pas de catégorie à part, tous égales face au miroir de la littérature, tranchant comme un couteau japonais. Sans grade mot, elle nous raconte bien sûr le double infanticide du nounou, mais aussi toute l'ambivalence horrifique d'une société qui croit bien faire et fabrique de la haine.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on construit toute une génération de gens qui ont théoriquement de très très bonnes idées, théoriquement des valeurs très positives, qui sont des gens tolérants, ouverts, qui n'aiment ni le racisme, ni la guerre, ni la pauvreté. Et comment ces gens se confrontent à la réalité, une fois que la réalité, elle rentre chez eux, une fois que la misère, elle est dans leur salon, une fois que l'étranger est en bas de leur portée. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et on parlait des vies minuscules, oui, des vies minuscules, bien sûr, mais la vie minuscule du domestique, du migrant, du sans-papier, du clochard en bas de chez vous, elle a finalement une incidence sur toute une culture aussi de notre société, où bon, bah, c'est plein de gens très bien, mais qui ne savent plus ce que c'est que bien faire. Qu'est-ce que c'est que bien faire? Est-ce que c'est donner 2 euros à quelqu'un dans le métro? Est-ce que c'est se donner bonne conscience en donnant à une association? Ou est-ce que bien faire, c'est vraiment interroger ses valeurs, essayer de favoriser une mixité sociale à laquelle en réalité on se refuse? Moi, j'ai pas de réponse parce que moi-même,
c'est
je fais partie.
Miroir aussi, hein.
Voilà, je fais partie de ces gens et je me juge moi-même finalement dans ce livre. Je ne me mets pas du tout en dehors de ça. J'ai pas la réponse, mais disons que mon entreprise littéraire, c'est celle d'abîmer, voilà, de salir cette image. Parfois très très je trouve très très mensongère, voilà, qu'on essaye de donner d'un Occident très positif et tout. Je pense qu'il essaye de l'être, c'est une voilà, c'est un horizon, mais c'est pas pour autant acquis.
Leïla Slimani, dans Ping Pong la semaine dernière, prix Goncourt pour Chanson douce, publié chez Gallimard. Cédric Villani, je m'adresse au mathématicien médaille Fields que vous êtes, c'est-à-dire même pas Goncourt, hein, c'est du Nobel la médaille Fields. Je parlais de ce ratio homme-femme, faible au Goncourt, du donc masculin-féminin. On peut aussi souligner qu'avec 2 concurrentes en lice sur 4, Gallimard avait 2 chances sur 4 de l'emporter. Selon vous, à quelle équation mathématique ça répond un prix Goncourt aujourd'hui?
Ouh là là, d'abord je ferai remarquer que en mathématiques, on est loin d'avoir un ratio de 10 sur 113, comme vous l'indiquez. Chez nous, je pense, les médailles Fields, ça doit être une sur 50. Je connais plus les chiffres exacts, mais il y a une seule femme qui a eu la médaille Fields à ce jour. C'était il y a quelques années, l'iranienne Maria Mirzahrani. On espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais on a encore des progrès à faire avant d'avoir des ratios un petit peu plus équilibrés. Alors, l'équation du prix Goncourt, c'est ça que vous me demandez? Ouais. Et les gens, ils ont toujours cette idée en tête que nous autres mathématiciens, on met tout en équation. Mais le prix Goncourt, c'est pas demain la veille que ça va se mettre en équation, hein. Mathématiques, ça marche bien avec la physique, avec les sciences physiques, avec les sciences du vivant. Déjà, c'est plus dur, mais avec les sciences humaines, oulala, ça marche pas terrible pour l'instant.
Donc, qualité stylistique, plus littéraire, slash bon, alors, monde contemporain, par exemple.
On peut prendre équation dans ce sens-là, en y allant vraiment sans complexe. Effectivement, une bonne trame, un bon pitch pour parler franglais, le style qui vous accroche, les tracasseries, oui, il en faut, une histoire de bien tourmentée, parce qu'une belle œuvre, c'est aussi une œuvre qui a du mal à émerger et qui va passer toutes sortes d'obstacles. Et puis à la fin, je sais pas moi, une histoire de la façon dont l'auteur, l'autrice arrive à communiquer à travers son ouvrage directement de son cerveau au cerveau du lecteur, hein.
Marc-Antoine Mathieu, à l'instant, Cédric Villani, parle des tourments, et il s'agit de ça, en particulier avec Leïla Slimani, et singulièrement dans sa chanson douce, qui est en fait une écriture de la cruauté, avec l'histoire de cet infanticide réalisé par une nourrice. Vous aussi, peut-être à la manière de Leïla Slimani, qui disait que dans ce roman, elle cherchait à s'affronter joyeusement, sans doute, à ses terreurs les plus obscures. Vous faites aussi matière de vos terreurs les plus obscures pour écrire des albums, et je pense en particulier à Otto, l'homme réécrit.
Ouais. Alors, je vais répondre à la question, mais avant je voulais un petit peu vite rebondir sur ce que disait Cédric.
Vous rentrez dans la partie de ping-pong de Marc.
On passe la craie, blanche pour l'équation.
Voilà, et puis je reviendrai après faire le double. Mais c'est vrai que ce qui faisait un peu peur par rapport au fameux combat science molle, science dure, on va dire, c'est que on a quand même, dernièrement, cette année, il y a quand même eu un ordinateur qui a écrit un livre et qui a été sélectionné dans un prix littéraire. Je ne sais plus dans quel pays c'est, je ne pense pas que ce soit en France, c'est pas encore chez nous, mais quand même. Donc ça veut dire quand même que l'équation et les sciences humaines, à un moment donné, pourraient se rencontrer, et ça peut faire un peu flipper.
Ah, je ne connaissais pas l'anecdote du livre, c'est intéressant. Alors, faut vérifier les détails, parce que des fois, il y a des gens qui s'amusent à faire des canulars, justement, à soumettre un article.
Qui passent même dans des revues scientifiques.
Hein. Ouais. Alors, dans des revues scientifiques, faut voir lesquelles. Mais, il y a eu des histoires comme ça. Il y a même eu un, je sais pas si je vais être censuré à l'antenne, mais qui ont réussi à faire passer dans une de ces conférences de type auteur-payeur avec un modèle économique douteux, un article qui consistait de la phrase "Get me off your fucking mailing list" répété des centaines de fois. Donc le contrôle n'est pas toujours super rigoureux.
Mais alors, c'est heureux.
Littéraire... Imaginons que ce soit vrai, cette histoire d'ordinateur.
Ouais. Alors, je sais pas, faut voir. Il y a beaucoup d'expériences. Il y a Paché, un expérimentateur dans le domaine de créativité artificielle, qui a sorti un disque de chansons, par exemple Steel Beatles, entièrement fait par ordinateur. D'expériences intéressantes. Quand il vous passe des cantates de Bach générées par ordinateur mais intelligence artificielle, il faut vraiment être très très expert pour faire la différence avec le vrai Bach.
Ils ont essayé pour un scénario de cinéma et ça a été très mauvais scénario.
Il y a aussi une donnée très importante.
Sauf lorsqu'elle est au cœur du scénario comme dans Her de Spike Jonze.
Il y a aussi une autre donnée qui est très importante aussi à signaler, c'est que dernièrement, le numéro 1 mondial de jeux de Go a été battu également par un ordinateur, ce qu'on pensait impossible il y a 20 ans encore, parce que pour gagner au Go, pour être un grand maître de Go, ça fait appel à des lois très très particulières, notamment à l'esthétique. C'est pas du tout comme aux échecs où par pure raison vous pouvez gagner. À un moment donné, au Go, il y a tellement de combinaisons que vous devez faire appel à des lois qui font partie de l'esthétique, si vous voulez. Et là, un ordinateur l'a fait. Ça veut dire qu'il a créé. C'est-à-dire qu'il a évidemment emmagasiné des données, mais on lui a aussi donné la possibilité d'analyser ces données et d'en faire des pistes de réflexion mais propres à gagner sur un être humain.
Marc-Antoine Mathieu, je suis en plein doute. Vous, l'auteur de bande dessinée, scénographe, et vous, Cédric Villani, le mathématicien, vous êtes des intelligences artificielles ce soir ?
D'une certaine manière, oui. Il faut entre l'humain et la machine, quelle différence il y a vraiment ?
C'est une
vraie question.
Vous avez la même plasticité cérébrale, en tout cas, comme l'intelligence artificielle va intégrer, plus on va lui donner, et plus elle passera évidemment les tests, non ?
Alors, certains... D'abord, il y a des tests...
Précis, nous sommes là pour ça, Cédric Villani.
Voilà, et des questions. D'abord, avant d'en parler, je vais revenir sur ce que vous disiez. Vous avez raison sur le fait que les scénarios, pour l'instant, ils sont mauvais. Les machines, on arrive à leur faire faire maintenant des merveilles au niveau du style, au niveau de localement, ce qui se passe, mais sur la construction d'ensemble, pour l'instant, les scénarios sont mauvais. C'est le plan d'ensemble qui est le plus dur. Certains répondront, de toute façon, les scénaristes hollywoodiens n'ont pas attendu les machines pour faire des scénarios mauvais. Souvent, c'est ce qui est le plus mauvais. Vous avez les films qui sont pleins de très beaux
mécaniques, ouais.
Des très beaux plans. Localement, les 10 secondes, là, c'est impeccable. Mais quand vous regardez le plan d'ensemble, ça n'a ni queue ni tête. Souvent, c'est comme ça, pour être un petit peu méchant. Bon, maintenant, pour ce qui est de la comparaison intelligence artificielle, intelligence humaine, grand débat. Et ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que l'intelligence humaine ou l'intelligence biologique, pour l'instant, est beaucoup plus efficace que l'intelligence artificielle. La puissance dans le cerveau, bon, ça tient dans un...
Là, vous vous tenez la tête à deux mains.
Je me tiens la tête, mon cerveau, il est petit comparé à n'importe lequel des serveurs du programme utilisé par le programme AlphaGo. Ça prend énormément de place pour l'instant, une place monstrueuse. Il y a des questions de puissance, il y a des questions de circuit.
l'intelligence artificielle, pour l'instant, reste beaucoup plus sensible à des petites erreurs, des petits détails. Il y a beaucoup moins de résilience que l'intelligence biologique. Mais bon, les spécialistes d'intelligence artificielle vous diront, on va voir. Et c'est vrai ce que disait Marc-Antoine Mathieu il y a quelques instants. Il y a même 10 ans, on n'y croyait pas encore, ou on ne le voyait pas venir, le programme qui allait vaincre l'humain au Go. Et maintenant, à coup de réseaux neuronaux, sur lesquels on misait pas grand-chose il y a encore 6-7 ans, ça y est, c'est fait.
Oui, parce que faut bien voir que finalement la conscience est quand même aussi la résultante en fait de tout un processus physico-chimique. La conscience, c'est ce que je raconte un peu dans Auto à un moment donné. Je fais une petite digression là-dessus.
Votre bande dessinée métaphysique, on peut le dire.
Oui, mais dans la conscience, y a-t-il vraiment quelque chose qui viendrait de l'extérieur nous donner cette conscience? Non, la conscience, elle est bien interne à notre cerveau, à notre corps, et c'est l'émergence, si vous voulez, d'un processus physico-chimique qui est tout à fait rationnel et matériel. Donc à partir de là, qu'est-ce qui nous empêcherait de penser que dans un avenir proche ou lointain, on n'arrive pas à reproduire ces processus par le même biais ou par un autre biais? C'est une question qui reste ouverte. On n'a pas envie forcément d'y répondre par oui ou par non, selon... ou avec morale.
À bien voir.
Ouais.
Est-ce que ce sera synthétisé un jour? L'avenir. En tout cas, nous continuons à développer avec vous dedans, Ping Pong.
Mathilde Serrel, Martin Kenéen, Ping Pong.
Qui parmi vous sera le prochain Einstein?
Trouver une idée réellement originale, c'est la seule façon pour moi de sortir du lot. La seule façon de devenir quelqu'un d'important.
Il avait une vision du monde.
Wenash, quelque part en train de chercher son idée originale.
Que personne d'autre n'aurait pu imaginer.
Ça remet en cause 150 années de théorie. Félicitations, John. C'est l'accomplissement de toute une vie.
Au secours! Aidez-moi!
John, ouvre la porte. Parle-moi, dis-moi ce qui s'est passé.
Vous ne résoudrez rien en cogitant.
Et pourquoi? Pourquoi j'y arriverai pas?
Un homme d'exception. C'est un extrait de la bande-annonce de ce film biographique, de ce biopic, comme on dit outre-Atlantique, consacré au mathématicien John Nash. Et vous, Cédric Villani, vous êtes aussi un homme d'exception, singulièrement depuis votre médaille Fields en 2010 pour des travaux sur l'équation de Boltzmann et sur la théorie du transport optimal. Et aujourd'hui, exceptionnel, vous continuez à vous faire le chantre de la communication, c'est un mot qui est d'importance, vous le disiez tout à l'heure, des mathématiques, avec ces conférences de mathématiques joyeuses à la Maison des Métallos. Il y en a une consacrée à John Nash précisément, et la prochaine, le 7 novembre, lundi, c'est pour faire naître une idée. Alors, revenons peut-être à John Nash et à notre émission qui s'appelle Ping Pong. Je crois que John Nash a pu nous faire entrevoir le fait qu'on pouvait faire entrer une balle de ping-pong dans un dé à coudre.
Oui, c'est une façon de voir les choses, l'un de ses accomplissements. John Nash, alors d'abord... John Nash était une exception parmi les exceptions. Hein. C'est l'un des géants mathématiques du XXe siècle et l'un des héros de mes conférences de la Maison des Métallos, effectivement. Et parmi les résultats impossibles démontrés par John Nash, les résultats auxquels on ne pouvait pas croire, il y a le fait que dans un monde mathématique, il y a une façon de déformer une balle de ping-pong sans la cabosser, pour la rendre aussi petite qu'on veut. C'est quelque chose qui semble impossible. On parle de la rigidité de la sphère en mathématiques, et pourtant, ça pouvait se faire à condition de l'interpréter les choses de la bonne manière.
Mais avec ouais. Ce que Nash appelait, je crois, des contorsions délirantes. Mais vous, qu'on dit aussi grand joueur de ping-pong, expliquez-nous, pour faire naître une idée, puisque c'est le thème de cette nouvelle conférence de mathématiques joyeuses, pour faire naître une idée, il faut aussi des contorsions délirantes?
Ouh là là, et qu'est-ce qu'il en faut? Oui. Des contorsions. Donc, effectivement, ça sera le thème de la prochaine conférence. Des exemples de nouvelles idées, de gestation d'idées qui ont changé le monde, parfois qui ont été douloureuses, qui sont venues comme un éclair, avec beaucoup d'exemples puisés dans l'histoire mathématique, dans ma propre expérience, dans les expériences des collègues. Et puis, certains des ingrédients dont on voit qu'ils sont indispensables à la recherche en mathématiques, à la recherche en sciences, à la recherche créative tout court, peut-être. Dans ce cycle à la Maison des Métallos, hein, ça fait partie d'un cycle plus général de conférences, je m'attache à parler de mathématiques pour le grand public selon certains axes. Et un axe qui est l'œuvre des grands cerveaux tels que Nash ou Poincaré. Un axe qui est mathématiques appliquées à des problèmes
concrets, tels que quel est l'âge de notre Terre, ou la question de comprendre le vol d'un avion, d'une chauve-souris. Et puis, il y a mes propres recherches aussi, vulgarisées à l'occasion. Et puis, la conférence qui vient la prochaine, elle s'inscrit dans une autre approche, qui est parler des manières, des habitudes sociales, intellectuelles du monde de la recherche. Comment est-ce qu'on se pense? Qu'est-ce qu'il y a comme part de poésie, d'exaltation, de frustration dans la recherche mathématique? Quels sont les ingrédients qu'on rencontre dans notre quotidien? Et ce sont des histoires illustrées avec des recherches actuelles, mais aussi des recherches anciennes, parce que les technologies changent, hein, les courriers électroniques remplacent les lettres manuscrites et ce que vous voulez, mais les ingrédients de la créativité, ils restent un peu les mêmes à travers les siècles.
Il y a 7 ingrédients nécessaires à la naissance d'une idée que vous listez.
Ne dévoilez pas le suspense.
Ah, je ne peux pas tout dévoiler. En tout cas, il y en a 7, vous les découvrirez sur scène. C'est fait de surprises, de ressentis et d'imprévus. Vous qui signez notamment des textes contre la réduction des budgets de la recherche, Cédric Villani, est-ce que cette histoire d'imprévu, ce n'est pas au cœur des budgets qu'il faut allouer aujourd'hui à la recherche? C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire ce que l'on cherche avant de le trouver.
Et alors ça, c'est un débat effectivement très sérieux et très délicat. Quelle est la part de recherche qui doit être allouée sur projet, avec l'idée qu'on va se lancer dans une recherche qui a un but finalisé, et quelle est la part qui doit être laissée en blanc, avec l'idée qu'on va continuer à chercher dans des recherches et des directions qui semble fructueuse sans savoir vraiment où on va aller. L'histoire des sciences montre que les progrès les plus importants, ils ont été faits quand on cherchait avec quand on cherchait là où on savait pas ce qu'on allait trouver. En même temps, c'est pas parce qu'on cherche au hasard qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Il y a un équilibre à trouver entre cette recherche ouverte et cette recherche finalisée, et bien sûr, ça fait partie de la compliquée équation budgétaire. Il y a un mouvement naturel triste des gouvernements dans leur ensemble, dans un peu tous les pays. Dès que budgétairement ça devient compliqué, on va rogner sur le budget de la recherche, parce que c'est de l'investissement de long terme dont on verra pas à l'échelle d'un mandat les résultats. Mais c'est une tendance délétère, et c'est bien contre ça qu'on s'était élevé dans la tribune que vous évoquez, signée avec un certain nombre de prix Nobel, contre ce qui nous semblait être un sabordage sur le long terme de notre recherche scientifique.
Il y a pourtant des patentes découvertes grâce à la recherche en mathématiques, en particulier Marc-Antoine Mathieu, en vertu du théorème de Banach-Tarski, dit aussi paradoxe de Banach-Tarski. Il se trouve qu'on peut prouver mathématiquement qu'une balle de ping-pong peut constituer 2 balles de ping-pong du même volume. Alors je vous lance la balle à votre tour, et vous qui dessinez album après album, et avec un travail du trait et de la ligne très reconnaissable, très singulier, et en particulier donc dans Otto, l'homme réécrit, votre nouvel album chez Delcourt, j'aimerais que vous nous disiez un mot, puisque vous êtes en compagnie de Cédric Villani, de la place, sinon de la mathématique, mais de la géométrie dans votre dessin.
La géométrie, la mathématique, la science en général a de ça en commun avec la création artistique qu'elle crée toutes les deux. Et c'est vrai que ce que disait Cédric tout à l'heure était vraiment très important. C'est-à-dire que à une époque où effectivement là on est un peu crispé, on a peur, dans les périodes où on a peur, où la peur rôde, on a évidemment les ailes coupées pour créer, on a peur de créer. Or, justement, c'est à ces moments-là qu'il faut peut-être mettre les bouchées doubles dans la confiance en l'avenir et se jeter à l'eau, parfois, quoi.
Et votre travail, donc, géométrique, justement, qui a quelque chose de vertigineux dans de nombreux albums et en particulier dans ce dernier.
Oui, la géométrie, les chiffres, les nombres m'ont toujours intéressé, parce qu'ils avaient de ça en commun avec le dessin ou avec l'écriture, que parfois, en allant les visiter, en allant vers eux, on découvre des choses dont on ne s'attendait pas. Et la mathématique, je pense que c'est ça. Enfin, toutes les sciences aussi, mais principalement quand même la mathématique, qui ressemble un peu à la musique en ce sens. C'est-à-dire qu'on peut, s'y baigner, on peut aller la visiter, on peut prendre des sentiers tout à fait étonnants et se retrouver dans des mondes incroyables. J'en veux pour preuve un livre très simple que je recommande à tout le monde. Après Steve Villani, qui l'avait lui aussi proposé et qui l'a même introduit, c'est le livre de Rosa Peter. Voyage dans l'infini, où elle raconte de manière très très simple qu'on peut s'égarer dans la mathématique et s'y retrouver de manière magnifique, en étant à la fois évidemment lecteur mais aussi acteur.
Oui.
Jeux avec l'infini, effectivement, de la,
Cédric Villani.
De la mathématicienne hongroise Rosa Péter, un ouvrage qui a une réputation durable parce que il entraînait le lecteur dans un voyage, dans une promenade mathématique où on allait de concept en concept et où l'auteur avait fait un gros effort sur la qualité littéraire de l'écriture, les exemples, certains tirés de la littérature, pour inscrire ces questions, ces concepts mathématiques dans la culture, dans démarche de culture.
Et dans la culture pratique, facile aussi d'abord, hein. C'est ça qui est très très bien dans ce livre, c'est-à-dire que c'est vrai que la mathématique, dès qu'on parle mathématiques, on va dire aux gens qui n'ont pas l'habitude d'en lire ou de s'y aventurer, tout de suite ça fait un peu peur. Mais en fait non, pas du tout. C'est comme n'importe quel autre champ, il suffit simplement de faire le premier pas et ensuite l'aventure est assurée.
Mathématiques, comme la musique, comme la bande dessinée d'ailleurs, et surtout certaines formes de bande dessinée, ça vient avec un ensemble de contraintes. Alors, Marc-Antoine Mathieu, comme on a acquis sa réputation, je crois pouvoir le dire, pour sa façon de justement décliner des concepts étonnants, d'intégrer des contraintes, de se donner des règles étonnantes. On va faire des zooms incroyables. On va suivre le trajet de la lumière pendant quelques secondes à travers une succession de rebonds de façon extrêmement rigoureuse. Il aime bien les palindromes, les routes qui reviennent sur elles-mêmes. Il s'est lancé dans l'aventure aussi, on le voit rien qu'au...
C'est la lecture mathématique d'Auto de Marc-Antoine Mathieu par Cédric Villani.
Les arborescences.
Oui, les arborescentes, mais aussi avec un titre qui se lit de la même façon de gauche à droite. Ça rappelle comment elle s'appelle cette bande dessinée ? Nogégon, la bande dessinée de Peters, qui elle aussi construite un peu en palindrome. Ouais.
Tout à fait, oui, c'est vrai qu'on a, j'ai un petit peu cette cousinage avec Benoît Peters et François Scruton de m'amuser à me fixer des fois des contraintes pour mieux les dépasser et pour mieux aller dans des endroits où on s'attend pas, parce que c'est évidemment ça l'enjeu de la création.
Pour aller dans la 2,3e dimension.
Voilà, exactement, et se rendre compte qu'à un moment donné, on est perdu, et pour mieux se retrouver, et pour mieux justement ne pas s'ennuyer. Parce que le but, c'est ça finalement.
Et ça, se donner des contraintes pour les dépasser, une grande histoire, beaucoup d'histoires mathématiques, elles sont comme ça. D'abord, la simple idée... tel que ça a été formalisé à partir de la Grèce antique, en mathématiques, se donner juste un petit nombre d'axiomes et de règles et de s'y tenir strictement, c'était une contrainte inouïe, quoi. Cette contrainte de raisonnement logique parfaite, c'est ça aussi qui fait toute la difficulté de l'art mathématique, mais qui fait aussi pour beaucoup sa beauté et le fait que ça incite à se dépasser. Quand vous avez des contraintes, c'est fatal, vous êtes forcé de les contourner, vous devez être beaucoup plus créatif que si tout est permis.
On va vous écouter justement dans votre art, hein, où vous répondez notamment à une équation rire plus mathématique.
Avec Buffon, on faisait des expériences, on mesurait en faisant l'expérience physique. Avec Fourier, on a un modèle mathématique et finalement une formule qu'on va comparer à la réalité. Progrès considérable. Et maintenant, vous attendez tous, bien sûr, de savoir combien Fourier a trouvé. La réponse, c'est qu'il ne fait pas le calcul. Il s'arrête là en disant « On trouverait ainsi un très grand nombre de siècles. » Point. Alors là, quand même... On se dit que c'est fort. On est en 1820, c'est plus l'Église le problème, là. En 1820, un scientifique peut écrire absolument ce qu'il veut sur l'origine de la Terre. Bon. C'est pas clair pourquoi Fourier n'a pas fait l'application numérique. Une explication possible, moi, ce que je pense, c'est que Fourier, il s'est dit, bon, là, vraiment, j'ai été fort, j'ai fait un très beau raisonnement, j'ai résolu l'équation de la chaleur, tout ça, je suis assez fier. Bon, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Quelque chose qui m'a échappé. Si maintenant, je donne une valeur, et que la valeur est fausse, les gens se souviendront que de la valeur. Et ils oublieront tout le beau raisonnement que j'ai fait avec les équations aux dérivées partielles. Donc, je vais rester là. Mon raisonnement, au moins mon raisonnement, je sais qu'il est bon, et on se souviendra de moi pour ça. Voilà, c'est possible.
Cédric Villani sur scène, donc ce cycle à la Maison des Métallos que vous continuez, il en sera question, donc la naissance d'une idée, on l'a dit aussi, les merveilleux théorèmes de Monsieur Nash, ça fait partie du programme, là on était sur une équation autour de la Terre, de la chaleur de la Terre, vous avez donc cette attitude et cette invention de vulgarisateur sur scène, vous qui mettez les mathématiques au cœur de la société avec un sens modificateur essentiel sur l'éducation, les finances, la recherche. Comment est-ce que voilà vous l'approchez ce travail de vulgarisateur mathématicien et son rôle dans la société?
D'abord, je suis persuadé que le scientifique travaillant sur un sujet qui touche sur le long terme la société doit aussi faire partie de la société, faire partie du débat public avec modération ou avec ou sans retenue, ça dépend de la personnalité du scientifique, mais en tout cas il n'y a pas de raison qu'il soit exclu du débat public. À la Maison des Métallos, c'est une approche de type spectacle vivant, comme on a pu l'entendre, avec un contact aussi fort que possible avec le public, une scénographie, un travail fait avec des graphistes et tout pour que ça passe le plus aisément possible et qu'on aille ensemble à la découverte de ces concepts qui ont changé la façon dont l'humain servait de la technologie, de la façon dont l'humain a compris et visualisé le monde qui l'entourait. Et donc il s'agit de décryptage, mais il s'agit aussi avant tout d'un moment qu'on passe ensemble, d'un moment convivial.
Mais est-ce qu'on peut parler de stand-up mathématique par exemple?
C'est du stand-up.
Vous avez des auteurs pour les vannes?
Non. En revanche, je fais beaucoup de conférences et je réfléchis à ce qui marche et ce qui marche pas. J'expérimente beaucoup. Quand je vois passer des réflexions, des idées, des citations, je réfléchis à les incorporer. Mais ça reste de l'artisanal. Hein. C'est moi qui les écris, c'est moi qui les teste. Il faut pas non plus que ce soit trop bien léché, vous savez.
Mais en quoi c'est nécessaire et urgent de le faire, justement, ce rôle et ce stand-up mathématique?
Urgent, je pense que c'est comme toujours, mathématiques, c'est un sujet de long terme, parce que la recherche est un sujet de long terme, l'éducation est un sujet de très long terme. Je répète sans arrêt, mais c'est vrai, ça prend beaucoup plus de temps de redresser un système éducatif que de redresser l'économie d'un pays. Et donc, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Éducation qui pose souci quand vous avez de la fracture entre les connaissances, l'apprentissage et les jeunes eux-mêmes. Vous avez des tensions, des frustrations et puis tant d'occasions manquées. Il y a derrière le savoir, derrière la culture, d'abord des choses très utilitaires. En mathématiques, on sait maintenant que ça représente une portion importante du PIB, que c'est l'un des moteurs de la croissance, que ça fait partie, que les emplois mathématiques sont parmi les emplois avec la meilleure valeur ajoutée, ceux pour lesquels il y a le meilleur emploi et des choses comme ça. Mais il y a aussi, bien sûr, le simple plaisir d'apprendre. Et reparler de ce plaisir d'apprendre, en le mettre en avant, c'est urgent pour moi.
Et à propos de votre savoir, si on peut y plonger à vos côtés un instant, Cédric Villani, vous avez pu dire que non seulement pour faire naître une idée, c'est donc le thème de cette prochaine conférence, mais aussi pour résoudre un problème mathématique, il faut savoir regarder au bon endroit. Mais il y a aussi la question de l'écriture qui, moi, me fascine parce que vous écrivez en langage mathématique, vous écrivez avec des chiffres, mais vous venez d'une famille de littéraires, vous étiez un peu le canard noir de la famille, avez-vous pu dire, et cette question de l'écrit, j'aimerais que vous nous en disiez un mot, quel rôle jouent les mots en mathématiques et peut-être l'écriture avec la main? Aujourd'hui, il y a des logiciels pour écrire les mathématiques comme LaTeX, mais voilà, l'écriture et le mot pour vous aider à aboutir.
L'écriture, la main, le mot, oui, c'est tellement de choses qu'on aime. Il faut d'abord rappeler que quand vous parlez de chiffres, mais quand vous regardez les formules mathématiques, comme vous savez, au premier abord, on voit pas que c'est des chiffres, on voit des symboles, on voit des lettres, et nous on y pense comme à des objets, des choses qui ont leur grammaire, qui se répondent les uns les autres. On pense très rarement aux chiffres, aux nombres qui sont derrière, voire quasiment jamais.
Mathématiques, pour nous, c'est surtout de l'assemblage de concepts. C'est surtout un art du raisonnement. Alors, derrière le raisonnement, il y a la grammaire propre. Il faut que les choses aient leur début, leur fin, leur consistance, leur cohérence. En même temps, on sait que l'exercice de réflexion mathématique est très différente de l'exercice, par exemple, verbal du langage. C'est l'une des rares choses que les spécialistes de la cognition, des sciences cognitives, les artistes comme Stanislas Dehaene et d'autres ont pu nous apprendre à l'observation de l'activité de notre cerveau. C'est que quand on pense à un problème mathématique, c'est pas les mêmes régions du cerveau qui s'allument que lorsqu'on pense à un texte littéraire, lorsqu'on parle. La réflexion mathématique profonde est non verbale. Alors les mathématiciens à ça ont répondu, ben oui, on le savait. Cela dit, c'est quand même toujours mieux quand ça vient être confirmé par la biologie. Et il n'empêche, évidemment, quand on se transmet les concepts et les réflexions mathématiques, on peut pas communiquer directement de cerveau à cerveau, on passe par les formules, on passe par les textes. Il y a un plaisir à rédiger un beau texte de mathématiques et ça arrive dans certaines séances publiques qu'on relise des textes des auteurs anciens, des auteurs d'il y a 100, 200 ans, pour le plaisir d'écouter la langue avec ces mots incompréhensibles mais qui ont un certain charme, une certaine poésie.
Il y a les mathématiciens philosophes quand même qui ont laissé quelques textes.
Philosophes nous ont laissé quelques textes.
Les mots de Poincaré qui vous sont chers.
Toutes les nuances, ouais, Poincaré nous est cher.
Sur l'intuition.
Toutes les nuances, depuis les philosophes qui speakent de mathématiques, mathématiciens qui speakent de philosophie, certains très pertinents, d'autres complètement hors contexte, d'autres un peu dans une sorte de délire poétique. On peut penser à l'utilisation que Lacan fait de certains concepts mathématiques. Et même quand
ça a
pas
de sens mathématique. Une bande de Mébius, d'ailleurs, sous les yeux, concoctée par Marc-Antoine Mathieu.
Bon, ouais. C'est beau, hein.
1, 2, 3.
Le ping-pong sur France Culture est l'émission qui aime à se perdre dans les mathématiques et parfois s'y retrouver. Grâce à Cédric Villani et bientôt Vertige Métaphysique dans les cases noires et blancs de Marc-Antoine Mathieu.
Ping-pong. La culture sans limite.
Et si Cédric Villani se dit volontiers naïf, il est un chanteur, au vrai un auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste qui le rejoint sur ce point. Mathieu Bogarts, qui sur son 9e album sonne toujours comme un petit ange, comme il le dit dans la chanson intitulée « Bizarre ». Et chez Bogarts, comme chez Baudelaire, la beauté a en effet toujours sa part de bizarrerie, mais elle n'est ni riche ni triomphante, comme chez l'auteur de l'Albatros, plutôt modeste et sans forfanterie, avec ses sonorités effleurées et ses rythmes doucement cadencés. Promeneur, c'est le titre de ce nouvel album qui résonne des voyages de Mathieu Bogarts depuis Nogent-sur-Marne jusqu'au Ghana, au Brésil, aux Comores. Un album où il musarde à pied, guitare en bandoulière, dans la peau d'un amoureux ou d'un évadé et toujours le nez au vent.
Qu'est-ce que tu viens faire ici? Que viens-tu faire dans ma vie? Que viens-tu faire dans mon nid? Tu n'as rien à faire. Pourquoi t'es passé par là? Tu y étais passé déjà. Je l'avais dit, fallait pas. Non, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Ici, même si tu es doux, je vais pas te laisser entrer. Ça me chatouille partout quand tu viens me caresser. Même si tu es doux, tu fais rien que m'énerver. Tu vas me rendre fou, petit vent de liberté. Tu vois bien qu'il n'y a plus de place ici dans mon petit espace. Va-t'en, tu m'agaces. Non, tu n'as rien à faire. Je veux pas que tu frappes à ma porte. Pourquoi tu veux que je sorte? J'ai bien trop peur que tu m'emportes. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Ici, même si tu es doux, je veux pas te laisser entrer. Ça me chatouille partout quand tu viens me caresser. Même si tu es doux, tu fais rien que m'énerver. Tu vas me rendre fou. Petit vent, arrête de me réveiller tous les jours de l'année à mon oreille soufflée. Je ne t'ai rien demandé. Arrête de me réveiller les jours de l'année à mon oreille souffler toutes ces drôles d'idées.
Ah!
Je veux plus que les portes claquent, je ne veux plus que tout craque. Je veux pas que tu casses la baraque. Je t'en prie, reprends le large avant de faire des ravages partout sur ton passage. Non, tu n'as rien à faire, 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 rien à faire ici.
Petit vent, extrait de Promeneur, le nouvel album de Mathieu Bogarts qui vient de paraître chez Tôt ou Tard.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong. C'est sur France Culture.
Il était tard lorsque K arriva. Une neige épaisse couvrait le village. La colline était cachée par la brume et par la nuit. Nul rayon de lumière n'indiquait le grand château. Si on n'avait pas su que c'était un château, on aurait pu croire qu'on avait affaire à une petite ville. À une petite ville misérable. Un ramassis de bicoques villageoises que rien ne distinguait. Sinon, si on voulait, qu'elles étaient toutes de pierre. Mais le crépi semblait parti depuis longtemps et cette pierre semblait s'effriter. La tour avait quelque chose de fou et se terminait par une sorte de plateforme dont les créneaux incertains, irréguliers et ruineux gravaient dans un ciel bleu des dents qui semblaient avoir été dessinées par la main craintive ou négligente d'un enfant. On eût dit qu'un triste habitant, contraint de vivre enfermé dans la pièce la plus reculée de la maison, avait crevé le toit et s'était levé pour se montrer au monde.
Ah, cri dans la nuit, dans les sonographies de France Culture, une archive de 1999, c'est le château de Kafka. Je sais que vous l'avez reconnu, Marc-Antoine Mathieu, puisque vous êtes nourri de Kafka. Il y a même l'un de vos personnages qui est un Kafka à l'envers. Hein. Il s'appelle Akefak et c'est l'envers phonétique de Kafka, Borges, Terry Gilliam. Vous aimez ces châteaux, ce vertige des constructions. Comment est-ce que dans Otto, on a justement cette dimension pour vous, kafkaïenne, cette bande dessinée que vous éditez chez Delcourt? Moi, il m'a semblé qu'on était proche aussi du château de Kafka, car dans cette quête sur lui-même, votre personnage ne s'en sortira jamais.
J'adorerais que vous ayez raison. J'aimerais qu'il y ait autant de poésie dans Otto que dans le château de Kafka. En réalité, Otto est peut-être plus du côté de Philippe K. Dick que de Kafka, même s'il y a
même
des châteaux aussi dans Philippe K. Dick, il y a le maître du haut château. Mais non, c'est plus une, ça reste quand même une bande dessinée que j'ai entrepris comme un voyage sans trop savoir aussi où j'allais. On parlait tout à l'heure des contraintes et des contorsions, mais il s'agit dans Otto également de ça, d'aller voir avec un postulat de base ce personnage Otto qui a la possibilité de relire absolument tout de ses 7 premières années, il a le temps et il a l'énergie de le faire. Jusqu'où ira-t-il et qu'est-ce qui va lui advenir? Voilà.
Oui, il tombe sur cette malle mystérieuse qui est une sorte de boîte de Pandore en même temps qu'une caverne d'Ali Baba qui retrace son enfance. Mais justement, puisqu'on vous a à nos côtés, Marc-Antoine Mathieu, j'aimerais que vous nous donniez une réponse à cette question qui, moi, me taraude et, je dirais, m'angoisse, surtout après cet extrait de Kafka. Sommes-nous la somme de faits, de nos actes, de nos dits, par exemple, ou sommes-nous la somme de nos souvenirs, c'est-à-dire de nos fictions?
Nous sommes la somme de ce que l'on est, de ce que l'on a vécu. Ça, c'est sûr. On est, encore une fois, on est une résultante d'un ensemble.
Mais tel qu'on le réécrit, si on lit bien votre sous-titre.
Et voilà, c'est évidemment toute la contradiction du livre d'Otto, et c'est un livre évidemment qui est ouvert là-dessus. C'est un livre qui est ouvert sur une question, c'est-à-dire on peut arriver à la même conclusion que le philosophe, c'est-à-dire il n'y a pas de mystère peut-être dans l'être, mais il y a un mystère de toute manière de l'être. Ça c'est certain, et qu'on ne résoudra peut-être jamais. En revanche, on peut tendre vers la résolution de l'énigme, exactement comme certains mystères mathématiques. On pourra tendre vers vers la solution, mais on n'y arrivera jamais complètement.
Mais il y a quelque chose de la dernière bande de Beckett aussi, il me semble, parce que il va se réécouter, il va retomber sur des enregistrements. On remonte un peu à la source de soi-même et on finit par parler à cet autre qui était nous-mêmes avant, que nous ne reconnaissons plus. Donc, est-ce que ça vous a influencé aussi dans cette quête de l'autre qui était moi avant et qui est un étranger absolu?
Non, pas vraiment. Non, j'ai plutôt été dans le creusement, si vous voulez, j'ai tracé le sentier dans la forêt de cet inconnu, dans la forêt de tout ce qui peut constituer un individu, une personne, un être. Jusqu'où peut-on aller dans tous ces moments, dans tous ces instants qui sont eux-mêmes, d'une certaine manière, tous des instants d'éternité. C'est-à-dire que si on considère que chaque instant, s'il est vécu pleinement, constitue une éternité en soi, comment est-il possible d'aller jusqu'au bout de son mystère? Là, encore une fois, je pose la question.
Cédric Villani.
Je crois, en tout cas, les sciences cognitives nous disent que on a toujours tendance à privilégier le souvenir par rapport à l'expérience qu'on vit. Si vous avez le choix entre vivre pleinement votre scène ou prendre une photo qui vous rappellera que vous y avez été, en pratique, les gens choisissent la photo. Comme si on privilégiait le fait qu'on puisse se rappeler dans la durée l'expérience, voire se l'imaginer, l'embellir dans son souvenir.
Mais parlons de durée, justement, avec vous. Notons quand même un détail amusant, c'est que cette nouvelle essai graphique, cette bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu s'intitule Auto, et ça doit être aussi un peu vertigineux pour vous, parce qu'il y a un Auto dans votre vie, un monsieur Auto, Cédric Villani.
Voilà, oui, alors Auto, moi je le vois à
plein de... Qui était votre tuteur dans le domaine du transport optimal.
Tuteur, non, mais un des collaborateurs à qui je dois l'une de mes plus importantes découvertes, et l'un des moments importants de ma carrière, si je puis dire ça de manière un peu emphatique, c'était le jour où, en regardant occupé à potasser un cours de probabilité écrit par un de mes mentors, Michel Ledoux, je découvre que ça venait en résonance avec un exposé de Félix Otto que j'avais écouté juste quelques semaines auparavant. Une coïncidence qui m'a permis de trouver un lien, qui a permis d'écrire un article qui a été extrêmement cité et qui a ouvert un nouveau pan. Et effectivement, Félix Otto, ça a été une des rencontres importantes pour moi. Alors, quand je vois ça, ouais, je pense à Félix. Alors, je dois dire Otto, évidemment qu'on pense aussi au chiffre 8 en italien, voire le film de Fellini, non, Otto e Mezzo. On peut aussi se souvenir...
Otto Preminger, ça peut venir Otto Preminger. À l'occasion.
Il y a une bande dessinée aussi qui s'appelle Otto, fait par cet auteur alsacien, Tommy Ungerer. Je disais ça à mon gamin quand on était petit.
C'est qui a fait, qui a fait les trois brigands.
Voilà,
c'est,
exactement.
C'est, oui, c'est un petit
son livre le plus célèbre pour les enfants.
Qui passe de main en main au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Exactement, voilà.
C'est vrai que Otto, le chiffre 8, c'est bien parce que le chiffre 8, c'est aussi quand on le tourne, ça fait le signe de l'infini. Et hop, on retombe sur les pattes de la...
Mais à propos d'un langage mathématique, justement,
du vertige métaphysique.
Cédric Villani, une idée. Pour faire naître une idée, c'est la conférence donc que vous donnerez la prochaine à la Maison des Métallos, et vous avez pu dire que faire entendre qu'une idée demande du temps. Il y a d'ailleurs une blague chez les mathématiciens. Pourquoi un mathématicien doit-il avoir une femme et une maîtresse?
Ouh là là, ah oui, ça c'est la vieille blague qui traîne de qui sait quoi. Une fois que vous, quand vous voulez vraiment à être tranquille, expliquez à votre femme que vous allez faire un tour chez votre maîtresse, à votre maîtresse que vous allez faire un tour, que vous restez chez votre femme, et allez au bureau pour travailler tranquillement. Ça, c'est une blague que j'ai vue adaptée dans certains contextes. Je suis sûr qu'on va s'attirer des critiques pour émissions sexistes, mes amis.
Et pour revenir vraiment au fond de cette bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu, puisqu'on vous a sous la main.
Vous avez bien commencé pourtant, c'est dommage.
Non, mais oui, mais on...
Je vous avais entendu la prononcer, hein, c'est pour ça que je vous l'ai resservi, pardonnez-moi. Il y a une vraie question mathématique. Est-ce qu'on peut remonter le temps, comme le fait le héros de Marc-Antoine Mathieu, dans un monde mathématique, Cédric Villani?
C'est un débat qui est toujours en cours pour l'instant, là, dans... que ce soit dans la théorie de la relativité générale ou dans d'autres théories, on voit pas de moyen de remonter le temps. C'est presque inscrit en dur dans la théorie, si on peut dire. Mais qui sait si un jour va pas se présenter une modification dans la théorie, quelque chose qui nous avait échappé. Certains le pensent sérieusement. Alors après, comme on sait, ça entraîne toutes sortes de paradoxes. Il y a ce thème très classique, qu'est-ce qui se passe si vous changez un événement qui a été important pour vous, ou si vous parlez à vous-même dans le passé. Tellement d'histoires de science-fiction d'ailleurs qui sont construites sur ce thème. En bande dessinée, on pense bien sûr à la
Enki Bilal,
la saga de, oui, ou la saga de Bourgeon, le cycle de
Londres,
les saisons sur Ilo, c'est ça, de Sian. Chez les
dessins, uchronies, oui.
Oui, les balades au bout du monde.
Les balades au bout du monde, le dessin animé Les Maîtres du Temps, c'est un thème qui revient tellement et qui fascine. Tout ça se répond. Alors, je sais pas si vous pouvez détailler peut-être plus qu'il y a ces petits autour de nous là pour nous mettre dans l'ambiance. Il y a ces petites bandes dessinées.
C'est des petits strips en fait.
Strips réalisés par Marc-Antoine Mathieu avec la forme d'une bande de Möbius. Ce ruban qui a été torsadé avant d'être recollé sur lui-même, de sorte qu'il n'a qu'une seule face et qu'un seul bord, et que si on suit la face, on finit par revenir au point de départ, en étant allé toujours dans le même sens. Si on suit le bord supérieur, on finit par aller sur le bord inférieur, puis à revenir sur le bord supérieur, qui finalement n'en font qu'un. Un très beau symbole pour parler d'une histoire qui se mord la queue comme le serpent, ou qui revient sur ses pas.
Voilà. Ruban de Möbius, alors...
La rocade, hein, de Möbius. C'est pas Giraud.
Möbius, voilà, c'est pas Möbius le dessinateur, enfin l'auteur, hein. C'est Möbius le mathématicien. Et pour continuer sur l'idée de contorsion, là on a quelque chose d'infini qui se retrouve sur un objet fini. Donc ça c'est toujours très intéressant, voilà un objet mathématique qui prête à la rêverie. La mathématique porte, encore une fois, nous porte souvent à la rêverie. Et ce qui est intéressant, c'est que cet infini qui se retrouve sur un morceau, une bande de papier fini, c'est aussi un volume, pourtant, c'est un volume, mais qui n'a qu'une seule face. Et ça, c'est intéressant aussi. Je crois qu'il y en a que deux, en fait. Il y a Roland de Möbius et puis la sphère, finalement. Donc une seule face. Là, je pose la question.
Alors,
vous avez un expert, profitez-en.
Oui, je laisse sous la main, je profite.
La sphère a deux faces en un certain sens, interne, extérieure, mais il y a ces théorèmes fascinants de retournement de la sphère qui disent qu'on peut faire passer l'intérieur à l'extérieur de manière lisse. Ça a été quelque chose de paradoxal qui a fait rêver les spécialistes de topologie quand ça a été découvert. Il y a toutes sortes de constructions géométriques abstraites qui permettent d'identifier des faces opposées. Et on va dire que, sans se lancer dans la classification, quelque part, le ruban de Möbius, c'est l'emblème de cette construction qui permet d'identifier les faces. Vous savez, sur mon bureau, à l'Institut Henri Poincaré, j'en ai une belle sculptée dans le bois de surface de Möbius.
On fera une exposition de bandes de Möbius un jour, ça vous dit ?
Oh là là, on va faire encore mieux, là, j'ai plein de projets d'exposition, ça, on reviendra pour vous.
Marc-Antoine Mathieu a organisé une exposition Möbius, mais c'était à Angoulême.
Voilà,
c'était un autre Möbius. Mais justement, si on revient un petit peu sur votre œuvre, Marc-Antoine Mathieu, je voudrais savoir, replaçons les auditeurs peut-être dans cette histoire, puisque Otto, l'homme réécrit, on l'a vu, il y a un vertige sur le temps, sur la remontée dans le temps. Je précise au passage que les uchronies, c'est les utopies dans le temps, c'est du temps alternatif, c'est uchronos, le temps qui n'existe pas. Mais vous avez aussi donc travaillé sur Dieu en personne, je parlais aussi de cette série Julius Corentin à Kefak. On a quand même des questionnements sur le miroir, sur la dimension, le décalage, le mot de réel revient extrêmement souvent dans votre bande dessinée. Donc, quelle place a justement la philosophie, la métaphysique dans votre écriture, dans votre travail en bande dessinée ? Parce qu'on sent que c'est constant.
Bah, je pense que dans toute œuvre, il y a une dimension métaphysique et poétique, il me semble.
Et tout le monde ne dit pas qu'il cherche la clé ontologique, comme votre héros.
Oui, c'est vrai. Oui, alors après, on aborde les terrains qu'on peut. Moi, j'aborde les terrains qui, petit à petit, se sont façonnés au cours du temps. J'ai rien cherché, hein. En fait, j'ai simplement erré là où je sentais que je pouvais aller, là où je sentais que je pouvais trivialement pas m'ennuyer. tout simplement, et avec simplement une espèce d'écoute du terrain, du contexte, des vies que je pouvais avoir, mais sans forcément, vous voyez, forcer. Et du coup, à partir du moment où on est dans cette...
On n'arrive pas sur la métaphysique comme ça.
Si, justement. Je pense que la métaphysique et la poésie ont beaucoup à voir avec l'errance et la rêverie. Et je rejoins tout à fait ce que disait Cédric Villani tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, en science, on essaye d'enlever de la friche, et on le voit bien aussi dans le domaine culturel. On essaye de faire des économies sur cette friche, mais c'est dans la friche que naissent l'imprévu, que naissent justement les belles choses et les choses qui souvent ont de l'avenir. C'est ce que j'essaye, moi, simplement, humblement, de travailler dans mon petit coin, dans mon domaine que j'essaye de maîtriser, à savoir les récits dessinés.
Alexandre Desplat, The Mirror. Évidemment, le miroir est au cœur de votre nouvelle bande dessinée, Otto, l'homme réécrit, Marc-Antoine Mathieu. Otto, cette figure double et divisée, ce palindrome, comme le disait d'emblée, le remarquait d'emblée Cédric Villani. Et Otto, c'est cet homme aussi qui brise son reflet. Est-ce que c'était, avec cet album, votre pari, votre projet risqué d'aller briser votre reflet comme votre héros?
Ah, c'est possible, ça c'est...
En creusant ces questions, encore une fois,
réfléchi. J'ai pas encore complètement réfléchi aux conséquences, hein, de...
Mais ça vous met dans des états comme ça.
Vous n'avez pas réfléchi à la création de cette idée, comme Cédric Villani le fait.
Oui, c'est ça, oui.
Cédric Villani qui peut être... Et
vous avez un état terrible, Marc-Antoine.
Non, pas du tout terrible.
Parce que là, vous avez l'air serein, alors que Cédric Villani avoue les états incroyables dans lesquels le travail mathématique.
Oui, je comprends très bien. Non, il y a des moments, effectivement, ou quand on dessine ou quand on crée en général ou même collectivement, il y a des moments où il se passe des choses, il y a des instants comme ça où on a le sentiment qu'on arrive à dire une petite partie de ce qui n'est pas discible, justement. Là, ça
peut arriver.
C'est dans
les mots, c'est dans le dessin, parce que Cédric Villani parle de la ligne directe vers la solution. Il y a ça pour vous aussi, la ligne.
Pour moi, c'est plus quand même dans les mots, hein. Je suis quand même plus un dessinateur appliqué, un artiste appliqué. C'est-à-dire que mon dessin, il est plus au service du texte qu'une aventure vraiment graphique comme ça qui est jetée. Donc c'est plus souvent dans les mots que ça se passe, mais il peut arriver comme sur la couverture d'Otto par exemple, de trouver une image qui peut être à la jonction, au carrefour comme ça de moyens d'expression qui a priori n'avaient rien à faire ensemble, c'est-à-dire le texte et le dessin. Et c'est toute la beauté, la richesse de la bande dessinée, de s'apercevoir que voilà un art qui était un peu hybride, qui était un peu le mariage de la carpe et du lapin. On aurait pu penser que c'était un art qui était comme ça un peu transitionnel entre la littérature et puis le tout cinéma ou tout jeu de vidéo.
Oui, et non. Que la bande dessinée peut être le cinéma du pauvre. Enfin, on a entendu déjà ce.
Voilà. Et bientôt, ce sera peut-être le cinéma qui sera la bande dessinée du pauvre, peut-être ou la bande dessinée du riche. Mais en tout cas, c'est-à-dire que la faculté comme ça de pouvoir s'arrêter sur les mots et en même temps sur un dessin, dans un monde où tout va vite, où on doit toujours être attentif à cette image qui bouge, à ce flux informationnel, ce flux réflexif, etc. La bande dessinée, peut offrir un genre de havre comme ça.
Mais c'est la bande dessinée en noir et blanc, c'est important chez vous, ça, Marc-Antoine Mathieu.
Oui, le noir et blanc.
Choisis cette contrainte absolue. Alors, vous essayez pas de l'enfreindre, vous essayez pas de la dépasser.
Oui, alors.
Vous dites, on n'entre pas dans la couleur comme dans un moulin, citant Matisse.
C'est vrai, oui, oui, on n'entre pas dans la couleur, on n'entre pas dans la couleur comme dans un moulin, ça c'est vrai. À part certains auteurs de bandes dessinées qui existent, qui sont, qui font justement de la couleur la fierté de certaines bandes dessinées. Mais le noir et blanc, on parle souvent de contraintes, mais moi il me semble que justement c'est une liberté. Repenser à ces cases d'Hugo Pratt, Corto Maltese à Venise. Tout noir et blanc, avec un ciel la nuit qui est blanc et juste une lune. Et du coup, tout d'un coup, Venise devient une espèce de Venise tout à fait étrange. Justement, avec une nuit blanche. Est-ce que c'est le brouillard? Est-ce que c'est une Venise onirique? Ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est plus intéressant finalement d'avoir du noir et blanc dans ces cas-là que d'avoir de la couleur. Donc, c'est plutôt la couleur qui est une contrainte ou du conte dans l'art.
J'ai eu l'occasion de travailler avec le dessinateur Edmond Baudouin. On a publié une bande dessinée il y a peut-être faire 2 ans maintenant, Les Rêveurs Lunaires. Et, il aime bien travailler aussi, Edmond, tout en noir et blanc. Et alors, quelle liberté! Il y a le choix de l'instrument avec lequel on va dessiner. Ça peut être du pinceau, ça peut être du rotring. Il y a toutes sortes de nuances qu'on peut exprimer dans le noir et blanc. Et là, le fait que ce soit juste du noir et blanc, je pense, peut-être que Marc-Antoine sera d'accord, ça rehausse d'autant plus la liberté du ton qu'on a pris. Quand il y a de la couleur, tout de suite, on est frappé par la couleur. Quand il y a du noir et blanc, on est plus attentif peut-être à la texture. C'est plus dépouillé, ça fait plus ressortir.
C'est vrai. Et puis pour revenir sur l'idée de liberté, c'est que quelle liberté pour l'auteur, mais surtout quelle liberté pour le lecteur, pour le regardeur qui va imaginer dans un blanc, dans un noir, dans un champ, ce qu'on appelle les champs graphiques, ben justement ses propres couleurs, ses propres ombres, ses propres peurs, ses propres joies, etc.
Ping-pong. C'est déjà fini.
Bien, merci pour cette traversée.
Impossible de remonter le temps pour l'instant.
Du paysage, donc de vos champs graphiques, Marc-Antoine Mathieu, et du paysage mathématique, puisque c'est un terme que vous affectionnez, Cédric Villani, et de ces paysages en arborescence, comme la couverture de Otto, l'homme réécrit, votre nouvel album, votre nouvel essai graphique chez Delcourt, Marc-Antoine Mathieu. Quant à vous, Cédric Villani, on peut donc vous retrouver vos théorèmes vivants, et vous, vivant, tout court, tout cru, puisque c'est du spectacle vivant, vous l'avez dit, vos conférence mathématique joyeuse à la Maison des Métallos. La prochaine, c'est lundi 7 novembre pour faire naître une idée, et c'est à Paris.
Le ping-pong est une expérience radiophonique qui se construit en équipe. Et quelle équipe? À la rédaction, Aïssatou Endoy, Jeanne Aléo, Seam Boutata et Lila Bozès. À la réalisation et à la programmation musicale, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Jean-Guilain Meige et Théo Gomard.
Demain, dans Ping-pong, nous partons à la rencontre d'autres paysages avec Happy Chapong, Vera Cetacool et la photographe Noémie Goudal.